Et donc, j'avais déjà écrit avant la sortie du Quintet pour Venise, que j'avais terminé, que m'avait demandé Safran de faire 5 textes, enfin j'avais fait 5 textes, j'avais composé déjà Quintet pour Venise, qui allait sortir en mars. À partir de février, j'ai commencé à écrire une histoire d'amour à Venise, une rencontre à Venise entre un homme et une femme, qui visitaient les musées, les églises, et qui étaient tous les deux férus de peinture. J'avais déjà écrit ça. C'était une histoire érotique, une rencontre érotique à Venise, qui faisait à peu près une quarantaine de pages. Une nouvelle un peu extendue sur Venise. Donc j'avais ça. Merci.
Merci beaucoup.
J'avais ça.
Est-ce que tu veux qu'on demande des sauces? Et,
si tu veux.
Excusez-moi, monsieur.
Vous avez des sauces ou pas?
Des sauces.
Merci. Merci. Et à partir du moment où j'avais ça, je voulais faire une histoire d'amour un peu totale, dans cette ville totale, une rencontre amoureuse, une histoire qui était à la fois un éloge de la Sérénissime, un éloge de Venise, et qu'on ne pouvait faire l'amour, qu'on ne pouvait visiter Venise et avoir une histoire qui démarre. D'habitude, on va à Venise plutôt pour... quand on a une histoire qui est préalable, et on va la consacrer à Venise en allant voir la plus belle ville du monde. Et là, c'était une histoire qui démarrait à Venise et qui était un peu emblématique, qui était une histoire réussie d'une semaine et qui s'arrêtait là. Mais j'avais déjà toute la trame de la visite à Venise, de la navigation, de l'amour de la peinture, de l'amour de la ville. Par un hasard un peu énorme, mais peut-être pas si hasardeux que ça, l'éditeur de Zérac m'a dit « Mais est-ce que tu pourrais pas traiter, toi qui aimes Venise, est-ce que tu pourrais pas traiter la question de la mer disparue à Venise, dans la peinture, étrangement, chez Tintoret, chez Véronèse, chez Titien, chez Bassano, chez les autres, il n'y a pas de représentation de la mer ?» Dans un premier temps, j'étais très étonné, je disais « Mais c'est pas vrai ». J'étais vérifié dans les catalogues, de l'Académia, les grands textes sur Venise, les grands livres d'art sur Venise, il n'y avait pas de représentation de la mer. Ou si la mer était représentée, elle était représentée totalement. Les batailles de navales étaient représentées à cette époque-là, totalement recouvertes par les bateaux, par les embarcations. Et donc la mer n'apparaissait même pas. Elle était totalement enfouie par la surreprésentation des bateaux. Je me suis dit, on va essayer de répondre à cette commande finalement de l'éditeur Zérac, qui est un spécialiste de la mer, qui a fait 35 volumes sur la mer. 35 histoires autour de Venise et la mer, autour de la mer en général.
Merci.
Suite à ça, j'ai commencé à dire, ce qui va être intéressant, c'est de faire un peu ce qui se fait aujourd'hui, c'est-à-dire mélanger à la fois la fiction et à la fois l'essai. Parce que la fiction, je l'avais déjà, avec cette histoire d'amour à Venise, entre Clara et Hugo, mais il fallait que je relis les chapitres d'analyse des tableaux depuis la première peinture vénitienne jusqu'au XVIIIe siècle, où le contraire s'était produit. C'est-à-dire qu'au XVIIIe siècle, après 1700, là, la mer est surreprésentée, avec Analito, avec Guardi, avec d'autres peintres, qui sont les védutistes, et qui, eux, mettent tout l'élément aquatique complètement en avant dans les tableaux. Et c'est déjà un tourisme, il se produit déjà au XVIIIe siècle, un tourisme italien, où les tableaux de ces représentants de la mer sont, eux, extrêmement prisés et sont vendus à tous les touristes. Donc, en fait, ils ne font pas que représenter Venise. En fait, ils bouffent aussi avec ça. Tout comme avant, quand elle n'est pas représentée, les peintres mangent, enfin, en tout cas, sont payés pour faire des tableaux religieux. Donc l'idée, c'était que, effectivement, enfin, la constatation première, c'était que entre le 15e et le 16e siècle, la mer n'est pas représentée parce qu'il y a une élévation religieuse qui est dans toutes les commandes des peintres, de par les notables et tout ça. Voilà, donc les palais, les peintures sont recouverts par ces tableaux de type religieux, évidemment, avec la Scola de Venise, la Scola San Rocco de Tintoret, avec les tableaux de Titien, voilà. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que ces tableaux ne représentent pas la mer, ils représentent des sujets religieux, représentent aussi un certain érotisme. Babino Zurbino, qui est emblématique, Suzanne et les vieillards de Véronèse, il y a tout ça. Voilà. Donc il y a à la fois de l'érotique à Venise, et à la fois l'occultation de la mer et les sujets religieux. Donc autour de ces trois choses, j'ai essayé de tisser un fil d'histoire où, en reprenant l'origine de la peinture vénitienne, les deux protagonistes, Carla et Hugo, échangent intellectuellement, sensiblement, voire sensuellement, autour de ces questions de peinture et de mer disparue. Et dans l'histoire, c'est Clara qui dit « Mais non, tu connais pas. » Parce qu'il se trouve que c'est le garçon Hugo, il est un peu naïf, hein, ce garçon. Et il se laisse un peu embarquer par Clara, qui connaît beaucoup mieux Venise que lui, qui a fait des études d'histoire de l'art, vraisemblablement, et qui donc a un questionnement...
Qui est un peu au-dessus de lui en termes d'instruction.
Absolument, qui est au-dessus de lui en termes d'instruction. On peut vraiment dire ça comme ça.
Voilà. Ah oui,
donc l'aventure continue, et de visite en visite, de consultation de livres dans la bibliothèque de Clara, du grand-père de Clara dans l'appartement où elle est, de sieste en cocktail, au fur et à mesure, ce mystère, ils tentent d'élucider ce mystère en avançant à travers la peinture de Venise qui, à cette époque, du 15e et du 16e, reste mystérieuse dans son occultation, presque, qu'on pourrait presque dire volontaire. C'est-à-dire cet élément qui est extrêmement prégnant dans la cité, qui a fait toute sa richesse, qui fait encore sa richesse au 16e et 17e. Venise étant à cette époque-là maîtresse en Méditerranée, allant jusque dans les pays nordiques, en Hollande, chercher des matières premières, et les vendant au Rialto, qui est le centre le plus puissant, qui est un peu le New York de l'époque, hein, le quartier du Rialto. À ce moment-là, il apparaît, étonnant aussi, c'est la deuxième chose, en comparaison, c'est-à-dire qu'à la même période, ou quasiment, en tout cas dès la fin du 15e au 16e siècle, la peinture hollandaise, elle représente la mer. Mais la peinture hollandaise, elle est frontale avec l'océan.
Là, on est post-Vermeer, là, dans ce que tu racontes.
On est post-Vermeer. C'est-à-dire qu'en fait, les marines apparaissent presque systématiques. Les tempêtes. Même Rubens va faire des tempêtes. Tous les grands peintres vont faire des tempêtes. Vont faire des batailles. Mais les batailles ne seront pas du tout occultantes de la mer, par exemple.
Oui.
C'est ça qui est très étonnant. Elles vont être très présentes. Un siècle ou plus avant le 18e vénitien. Et ce qui est étonnant aussi, c'est que donc la peinture hollandaise est puissante, et ce que constate Clara et Hugo en discutant, parce que c'est grâce à la discussion qu'en fait ils vont pas résoudre. Mais ils ne vont pas. Ils vont simplement, il n'y a pas de réponse forcément à donner, tel qu'il est mis dans le quatrième de couverture. Ils vont pas donner de réponse, mais par contre, ils vont s'apercevoir que peut-être, étant donné que la Hollande est très protestante et que l'Italie est très baroque, peut-être que les protestants seront plus enclins à matériellement montrer ça, alors qu'en fait, le baroque catholique est complètement barré depuis Rome, depuis la peinture romaine, dans de toute façon une torsion qui part toujours vers le haut, en fait. Qui est toujours tel que Bernin l'a le premier fait dans les colonnades et à la Villa Borghese, dans ses sculptures. Voilà, donc ils s'aperçoivent aussi qu'il y a une différence aussi de type religieux. Il y a le matérialisme protestant qui confronte avec, on va dire, le côté perché, épicé du baroque, pour dire ça vite. Et il y a un élément dont je veux parler qui est important, c'est l'élément de la sprezzatura, c'est-à-dire ce qu'on appelle la désinvolture. Et il apparaît aussi que cette sprezzatura, qui est très spécifique à l'Italie, qui est très spécifique au comportement quotidien des Italiens, à Venise, elle prend une dimension qui est peut-être encore plus importante, cette sprezzatura, cette désinvolture. Et donc dans les plafonds, il va y avoir cette espèce d'ascension de personnages religieux mais sensuels en même temps qui vont être perchés dans le ciel. On va le voir ensuite avec Tiepolo, qui lui-même, Tiepolo, même au XVIIIe siècle, ne représentera quasiment jamais la mer. Des bateaux, mais pas la mer. Voilà. Donc il y a cette espèce de choses qui avancent comme ça, en réflexion, en respirant aussi, avec des balades. Dans Venise, il n'arrête pas de faire le tour de Venise, il ne faut pas que la peinture, il profite aussi de la musique et des plats vénitiens, donc de la sensualité propre à Venise.
Et est-ce qu'on peut dire que c'est un guide qui ne dit pas son nom, un guide à la fois sur Venise, un guide peut-être sur l'amour, ou pas sur l'amour, si ce n'est sur l'amour, au moins sur la rencontre amoureuse et les échanges alors, fluides?
Alors, l'aspect romanesque, effectivement, de ce livre, le fil romanesque est posé sur l'histoire de la rencontre, de l'amour, de la sensualité. C'est-à-dire qu'en fait, dans cette histoire, tout se passe bien. Il n'y a pas de... Enfin, je ne dévoile pas la fin du livre, mais il n'y a pas de... Il n'y a pas de tension véritable. Il y a une tension de type intellectuel, il y a un humour toujours partagé entre les protagonistes, et il y a le...
Alors, dans la retenue, tu veux dire?
Oui, une certaine retenue, mais on n'est pas vraiment dans la passion, on est dans quelque chose de l'ordre d'une évidence, d'une légèreté. Il y a une légèreté de visiter Venise et de se poser des questions sur cette peinture, et de voguer, et d'aller à un concert de Vivaldi, et d'aller boire du spritz ou du prosecco, et d'aller dîner. Donc, c'est vrai que c'est un livre peut-être un peu monolithique, ou en tout cas duolithique, c'est-à-dire qu'en fait, il n'y a que deux personnages. Il n'y a pas d'autres personnages qui apparaissent, sauf en évocation. Mais ce sont les deux personnages-là, le yin et le yang, le masculin, le féminin, avec leur force, leur contre-force, qui essaient, grâce à ce sujet qui les interroge, d'avancer dans Venise cette semaine-là. Donc, c'est un...
On peut presque... Et une approche un peu péripatéticienne, au final, de paroles qui se fait par la marche dans les rues.
La marche dans les rues, mais aussi prendre le vapeur étoile improviste, comme aime bien le narrateur de Quintette pour Venise, parce qu'on s'aperçoit que c'est un peu ça. Et donc, en fait... C'est de rentrer dans ce maelstrom, finalement, dans ce maelstrom calme, et où on est emporté dans le calme de Venise, dans les navigations vénitiennes, où en fait il ne cesse de remonter de redescendre le grand canal avec une joie de cette rencontre, de cette réflexion, de cette splendeur tout autour, de ces palais qui perdurent au-delà de leurs 400 ans de construction, tout ça. Donc, en fait, ils ont cette chance de traverser Venise hors du flux touristique habituel, peut-être grâce à leur rencontre et grâce au fait que Clara connaît Venise et Hugo la suit de près. Ouais, c'est bon, je paye après. Donc, voilà. Donc, c'est vrai que c'est un guide, mais qui sera
tu
peut-être...
Tu lui as dit tais-toi, on est en interview, là. Tu te rends compte de ce que tu lui as dit, hein.
C'est vrai. Non, mais il est sympa, il est gentil.
Non, il est sympa, je
pense. Il sera 20 centimes de plus. En tout cas, voilà. Donc, en tout cas, bon, il y a aussi cet aspect qui apparaît à un moment donné du livre. Il y a le fait que Venise est d'une poésie fondamentale. C'est pour ça qu'à un moment donné, Hugo, qui est écrivain, va aussi replacer le poème de Baudelaire, L'invitation au voyage, non pas en Hollande, mais à Venise. C'est-à-dire qu'en fait, on a toujours dit qu'en fait c'était écrit à Amsterdam, mais vu la précision des termes, vu le fait que Baudelaire décrit une ville vraiment portée par les eaux, on peut tout à fait interpréter ça du côté de Venise. Donc la poésie va aussi être très importante, les rapports du poétique, les repères poétiques sont extrêmement importants. Par exemple, Clara Hugo vont passer une après-midi de pluie à se lire les plus grands, les plus beaux passages des auteurs français ou italiens à la suite. Voilà. Donc, ils vont aussi faire beaucoup référence à Proust, qui a été un grand vénitien, à Vivaldi, à Maupassant, qui est venu en bateau à Venise. Voilà. Et ils vont passeront aussi par l'érotisme de Baffo Zorzi. Voilà, il y a tout ça. Donc, il y a
Mozart, il est passé à Venise aussi.
Oui. J'ai vu la plaque d'ailleurs.
Ah oui.
Ouais, j'ai vu la plaque. Il est passé, il était très jeune. Il avait 14 ans. Hein. Donc il est né en 56. Merci beaucoup. Au revoir. Et je crois qu'il est passé. Alors il est né en 56. Pas dire de conneries. Je crois qu'il est passé en. Ah non, il avait 18 ans. Il est passé en 1774. Donc lui, il est passé à une époque où la peinture était redevenue plus peinture de paysage. À partir du moment où les peintres vénitiens ont quitté les commandes religieuses, évidemment, ils se sont tournés vers le paysage, vers la mer fondamentale, vers leur paysage quotidien, en fait. Ils ont arrêté de se percher dans des hauteurs. Voilà, donc ça c'est les grandes lignes. Hein. C'est les grandes lignes. C'est pas vraiment un guide, c'est.
Oui, c'est un. C'est un guide qui ne dit pas son nom.
Qui ne dit pas son nom. D'une certaine façon, c'est un guide qui ne dit pas son nom. C'est.
Mais est-ce que le mot.
C'est une vision, je pense, assez. Enfin, j'espère, assez panoramique de ce qu'on peut faire à Venise quand on aime la navigation. Ce ne sont pas des gens très fortunés, hein, donc ils ne vont pas prendre de taxi, ils ne vont pas faire de choses exceptionnelles. Mais en suivant simplement ce qui leur est proposé, ils tombent toujours. Ça, c'est un peu les ressorts romanesques, sur le Vaporetto qui les attend, sur un palais où ils vont pouvoir rentrer, sur un musée où il n'y aura personne. Donc ils ont un peu de chance. Et ça, quand on se décale du flux touristique, on revient vite sur cette chance d'être seul dans les hommes. Ils vont les visiter, ouais. Ils vont aller voir la crucifixion.
Il te reste une minute.
Ouais. Mais qu'est-ce que je peux dire en
une minute sans chercher à tout dire.
Non, mais je ne vais pas tout dire.
En une minute,
ce qui m'a aussi intéressé de faire en tant que roman sur Venise, c'est de montrer des choses qui n'étaient pas toujours montrables. C'est-à-dire la possibilité.
Montrer ou montrable ?
Montrable. C'est-à-dire qui n'étaient pas toujours montrables, c'est-à-dire qu'en fait, on pouvait à la fois visiter Venise d'une autre façon, il suffisait de se décaler un peu des grands points touristiques, voilà, et aussi de s'apercevoir que cette mer qui n'a pas été représentée était extrêmement puissante, parce qu'elle relevait aussi d'une faune sous-marine dont il fallait parler, et le livre se conclut un peu là-dessus, sur le fait qu'en fait, il y a une telle profondeur dans la mer de Venise, quelque chose de très sous-jacent dans la mer à Venise, c'est-à-dire qu'en fait, il y a une existence. Il y a une existence propre des animaux marins. Voilà, donc peut-être ces animaux marins, ils ont été aussi considérés comme un peu. Enfin, cette existence marine, elle a été un peu considérée comme démoniaque par le fait que Neptune et Venise ont toujours eu des rapports un peu antagonistes. C'est une ville féminine, c'est une cité de type féminin où les femmes ont sûrement provoqué la construction des palais pour elles, c'est-à-dire les grands marchands étaient amoureux des femmes pour les avoir dans leur palais, pour les avoir chez eux, pour les impressionner, ils construisaient des palais, c'est pour ça qu'il y a eu cette magnificence, cette cohérence totale, et en face de Venise la féminine, eh bien, il y a Il Mare, c'est-à-dire la puissance surréel du masculin,
mais
maritime.
Est-ce que Clara, c'est pas la femme qu'on ne peut pas impressionner pour le coup? Elle prend ce contre-pied là. C'est-à-dire qu'autant Venise a été construite pour impressionner les marchands, on voulait impressionner leur conquête les femmes qu'il voulait avoir comme
épouse. En tout cas, Hugo, il n'arrive pas vraiment à l'impressionner.
Non, c'est elle qui est impressionnante au final.
Ouais, ça sera la fin du livre. Tu verras, il y a, à la fin du livre, il y a un retournement de situation. Un peu.
Il nous reste 10 secondes.
Qui se passe ici, de Massobar Castan d'ailleurs, où on représentera peut-être le livre.
Il nous reste 5 secondes.
Et voilà. Et donc, Clara et Hugo, je pense qu'ils se reverront.
Dans le troisième volet de la trilogie. Merci.